C'est une pratique quotidienne de, je sais pas, 30 minutes par jour nous semble intimidante si on commence la méditation ou trop long. Façon de pratiquer que moi je trouve très puissante, c'est par exemple ce que je décrivais, un peu de pratique en se réveillant le matin dans le lit. Puis à différents moments, puis peut-être à un certain moment 15 minutes dédié à ça, plutôt que ce soit 30 minutes à 15 minutes là. Puis un peu de présence en mangeant, si on mange seul par exemple, ça peut être plus facile. Une intégration de la pratique à différents endroits comme ça, puis sur une certaine durée, je pense que ça peut être très très puissant pour intégrer la pratique. C'est sûr que si on peut ajouter un 30 minutes par jour, deux fois 30 minutes, ou même plus si les conditions sont bonnes pour nous, c'est sûr que ça va accélérer l'intégration, le développement de la sagesse, etc. Mais je ne sais pas quelle était votre réaction quand j'ai dit faisons 15 minutes, on pourrait avoir l'idée, ah, ça c'est court. T'sais. Mais en fait, ça, pour moi, je le considère quand même très, très plein de potentiel, très riche. Puis, surtout, au moment de finir la méditation formelle, on peut avoir le « OK, maintenant c'est fait », puis là, on retourne complètement dans nos automatismes. Alors, au moment où justement la cloche sonne, ou l'iPhone timer sonne, ou le micro-ondes, quel que soit l'objet là, qui nous sort de notre méditation formelle, le moment de transition est très important et très riche. Alors, qu'est-ce que j'importe? Qu'est-ce que j'invite? Qu'est-ce qui pourrait rester là? Qu'est-ce qui pourrait, à quoi est-ce que je pourrais rester attentif à la présence d'une certaine qualité ou état de présence, d'attention, quelque chose que je pourrais apporter, amener avec moi. Auquel je pourrais rester attentif. Est-ce que c'est là la présence de l'invitation? Donc, est-ce que j'ai quelque chose entre les dents? Ça va? En fait, je sais que ça va parce que j'ai trouvé un truc. J'ai pris un selfie de moi-même dans la toilette. Je sais que je n'ai rien entre les dents. C'est un enseignement. C'est une façon très subtile. Seulement certains vont là. Ou inconscient, de ne pas trop se prendre au sérieux. C'est une des qualités qui, je pense, qui est très aidante, un petit côté joueur, quand c'est disponible, parce que ça n'est pas toujours. Hein. Des fois, c'est parce qu'il est dans peut-être pas dans notre personnalité, ou peut-être pas dans l'espace, dans la situation de notre vie, mais si ça l'est, je crois que ça peut être très aidant. Comme toutes les qualités, elles peuvent avoir leurs défauts. Là. Ça peut mener à l'exubérance, etc. Ça peut être une forme de déconnexion, mais ça peut être aussi une forme de. Ça peut être un genre de fluide qui aide dans l'exploration puis le développement. Je pense, j'ai cru observer ça. Je voulais peut-être ramener quelques questions. Souvent, les gens s'approchent. C'est un très bon moment, là, après la séance, si vous avez une question, vous pouvez vous approcher. Puis c'est une bonne forme, un à un, pour poser une question, un truc, pour s'exposer. Mais souvent, le désavantage, c'est que je me dis, ah, ça, c'est une question excellente. C'est que plusieurs personnes seraient peut-être curieuses d'entendre à la fois la question, puis la réponse, la suggestion. Puis donc tout à l'heure, je me disais, je vais prendre en note un peu, puis me servir de se ramener ça. Alors, je pense que c'est OK, c'est fait de façon anonyme, puis aussi c'est ma version de la question. Alors, mais une personne qui me disait, moi je vois qu'il y a une certaine émotion, un certain état d'esprit, un certain état d'âme que je crains en fait, puis que je cherche un peu à éviter, puis ça vient avec des sensations corporelles. Puis donc, comme je ne veux pas sentir ça, une des choses que je me vois faire, c'est que je vais vers le frigo. Et je trouve de la stimulation autrement. Puis, c'était pas autant une question que. En tout cas, moi, je fais le rapport de comment j'ai reçu, ce que j'ai compris. Là. La personne disait, mais là, je pense que, en fait, j'ai l'impression que je pourrais peut-être commencer à m'intéresser à cette sensation, émotion, état d'esprit, cette anxiété ou ce vide. Je pourrais peut-être. En tout cas, c'est ce que je comprenais, puis je trouvais que c'était très juste. Puis ce que je vois, pour moi, je ramène ça parce qu'en fait, j'ai un petit modèle dans ma tête là, de qu'est-ce qui se passe dans la pratique. Puis ce que j'ai l'impression de découvrir, entre autres, chez moi, puis chez les personnes qui pratiquent, avec qui j'ai la chance de discuter, puis il y en a beaucoup, je suis chanceux comme ça. Et j'ai l'impression que ce que je vois, c'est qu'on passe de... Le mot me vient en anglais, là, coping mechanism, des modes d'évitement, ou il y a peut-être une autre expression. Là. Et j'ai l'impression qu'on va tranquillement de ça. On a des façons de survivre, de protéger, d'être avec les choses qui nous habitent, qui nous arrivent, qu'on craint qui pourraient nous arriver, etc. Puis dans la pratique, tranquillement, on remplace les modes d'évitement, de façons... habituels, qui sont peut-être pas extrêmement sages, qui viennent avec certains désavantages, etc. Tranquillement, on les remplace par des qualités très puissantes qui vont faire qu'on va pouvoir rencontrer les choses. Comme dans ce cas-ci, je trouvais que c'était un bon exemple. Alors, bon, il y a un certain phénomène qui est difficile à vivre, qui est confondant. Bon, il faut trouver une façon de répondre à ça. Alors, le frigo est une méthode. Peut-être des nombreuses méthodes, mais c'est pas si mal parce que ça pourrait être la bouteille de whisky, etc. Alors bon, là il y a ce truc-là, bon ça marche plutôt bien, puis ça va, surtout si on est bio, puis sans sucre, sans gluten, et tout ça, bon, c'est un bon mode d'évitement. Mais tranquillement, avec le développement de la pratique, on gagne un peu en courage, en curiosité, ceci, en cela, puis là, ces qualités-là se rassemblent, puis là, on les sent en nous. Puis là, tout à coup, on se dit, ouais, mais je pourrais aller au frigo tout à l'heure, mais je pourrais prendre quelques secondes pour ressentir cette solitude, ce vide. Puis tranquillement, c'est ce que je vois, moi, se construire, c'est ça, chez moi, chez les autres, le développement du courage, parce que, avec l'expérience, on a... Après, en fait, je peux être là, j'ai appris, mais... mes enseignants, ou avec la communauté, ou tout seul, avec un bouquin, j'ai appris que je pouvais être au milieu de ça qui est désagréable. En fait, je peux être là sans m'abandonner, sans avoir à éviter. Je peux être au milieu d'un peu d'inconfort, dans le genou, dans les lombaires. Puis là, c'est une autre sorte d'inconfort, un petit peu plus intense, une autre localisation. Mais peut-être que je pourrais aussi... découvrir cette chose-là, m'intéresser à ça plutôt que de vouloir l'éviter. Puis donc, ça se développe tranquillement, des régions où est-ce qu'on peut le faire, puis là tout à coup, ça se met à s'ouvrir vers d'autres régions, d'autres aspects de notre réalité. Il y a souvent avec la pleine conscience, il y a la qualité du discernement qui vient avec dans les textes Sati Sampajanya. On pourrait le traduire par discernement. Puis dans les commentaires, il y a plusieurs façons de définir plusieurs aspects du discernement. Puis il y en a un que moi j'aime bien, de la façon dont je l'ai compris du moins. C'est une reconnaissance des opportunités de pratique. Puis ça fait partie du développement de cette pratique-ci. C'est qu'au début, on pense que c'est seulement sur le coussin, lors d'une retraite ou d'une soirée hebdomadaire de méditation. Après, on se dit « Ah, mais je peux essayer tout seul chez moi. » Après, on se dit « Ah, mais on peut le faire aussi en marchant. On n'est pas obligé d'être assis au sol. En fait, je pourrais aussi être là. » Puis ça s'ouvre tranquillement, puis là, il y a un moment où on se dit, ah tiens, je pourrais même le faire avec cette émotion-là, ou en étant avec cette personne-là qui fait naître en moi ceci ou cela, je pourrais amener un peu de pleine conscience. Puis le développement de la pratique, c'est beaucoup qu'on reconnaît de plus en plus d'espaces possibles de pratique. On se dit, ah ici, en fait, ça pourrait être parfait, ou peut-être que je peux pratiquer dans ces conditions-là. Avant, je me disais, non, il faut absolument que je sois posé pour pratiquer, puis là, j'ai pas dormi de la nuit, mais peut-être que même en étant épuisé, peut-être que c'est possible de vivre avec pleine conscience l'épuisement. Puis tout à coup, on se rend compte, ah oui, ok, c'est comme ça. T'sais. Peut-être même que pendant la journée, si vous êtes assis, puis il y a une vague de... ou plusieurs vagues. Puis là, vous dites, ah non, je ne peux pas pratiquer. Puis peut-être qu'après quelques mois ou quelques années de pratique, on se dit, en fait, oui, je peux être. Je peux être, tu sais, c'est pas, peut-être pas parfait, parfaitement clair, mais peut-être que c'est pas un problème. Peut-être que ça peut faire partie du truc. Puis donc, c'est ça là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on développe une certaine confiance, la capacité de faire ça. Puis c'est ça que j'entends. Même quelqu'un me parlait hier, puis il me disait, « Ah, il y avait un événement, j'ai dû aller à l'hôpital, il y avait une opération, tout ça. » Puis, en fait, j'ai vu que j'étais capable de rencontrer cette situation-là. Je ne pense pas qu'avant, j'aurais pu, mais maintenant, il y avait une sorte de mélange peut-être de gratitude puis de confiance. Peut-être que le mot, pour quelqu'un d'autre, ce serait « foi », mais pour moi, dans ma culture, c'est un peu... on craint ça, c'est près du religieux. Alors, pour moi, le mot « foi », je ne sais pas, je l'utilisais plutôt aujourd'hui, mais j'ai des petits frissons quand j'utilise ça, je sais pas. On répond différemment. Le mot « confiance » marche bien pour moi, une sorte de confiance en la pratique, confiance en ma capacité de pouvoir pratiquer. Donc, c'est ça, passer des modes d'évitement, puis développer des qualités qui vont nous permettre de laisser tomber certaines façons qu'on a habituelles de répondre à des situations pour avoir d'autres façons de répondre qui sont bénéfiques pour nous, puis pour les autres, là, qui ont moins d'inconvénients incorporés dans la réponse. Il y a quelqu'un qui disait, mais... à propos de faire des changements dans sa vie ou à propos du futur, ce que je comprenais de la question, c'était est-ce que c'est possible pour un être humain quand même de penser au futur, de faire des choix? Qu'est-ce que tu sembles proposer? Ben, c'est vrai, c'est une bonne question. Puis, ce que je disais, c'est je pense que ce que je propose, puis ce que cette pratique-là propose, entre autres, c'est pour qu'on puisse penser librement au moment où on le désire, où c'est opportun, pour plutôt que d'être pris par la pensée, plutôt que d'être assujetti à une planification constante, qu'on puisse se dire, ah, tiens, bon, là, je dois penser à cet après-midi, ou je sais pas, à ma carrière, ou à des grands choix que j'ai à faire, puis je vais le faire maintenant, tu sais, plutôt que d'être obsédé, etc. Ça, c'est une part. Donc, c'est pas qu'on peut plus penser, c'est qu'on va penser librement. Mais pour plusieurs d'entre nous, on ne sait même pas qu'on n'a pas de liberté en ce moment. On entend peut-être ces paroles-là, puis on se dit, ben, je pense quand je veux. Mais c'est quand, justement, on se dit, tiens, est-ce que je peux être avec la respiration? Puis que là, ça dit, non, mais il faut vraiment prévoir demain qu'on va pouvoir se rendre compte que, ah, en fait, c'est pas tellement... Je pensais que c'était moi qui voulais penser, donc je pensais... Mais là, je me rends compte que je suis pensé. Tu sais, que je suis... qu'il y a une dépendance, qu'il n'y a pas de liberté là-dedans. Fait que ça, c'est un des aspects que moi, je vois. L'autre, c'est qu'au moment de penser à quelque chose, que ce soit à propos du futur, de revisiter le passé, ou de penser à une relation avec, je ne sais pas quoi, un collègue, un parent, etc., au moment de le faire, j'aurai justement toutes les qualités que je vais avoir développées là, pour passer des modes d'évitement à quelque chose de plus bénéfique. Alors au moment de penser, ce qui va penser, ce ne sera pas nécessairement la peur, le ressentiment, mais ça va être quelque chose d'un petit, un peu plus large, un peu plus profond, un peu plus aidant. C'est-à-dire que je vais pouvoir me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé quelque chose de troublant entre cette personne-là et moi. Au lieu d'y aller avec toutes les façons habituelles que j'ai, l'énervement, la compulsion, l'obsession, je vais pouvoir entrer là-dedans avec une conscience du corps, peut-être. Juste de penser à ce qui s'est passé hier, il y a un peu de honte qui monte. Ah, c'est quelque chose que normalement je sens pas autant, j'évite. Hein. Je me justifie, j'ai dit ça parce que. Mais là, en mettant un peu plus de place, ça, un autre aspect de ce qui s'est passé apparaît. Ah, je ne suis pas absolument fier de ma participation au truc. Alors, je ne suis pas juste pris dans le ressentiment, je peux aussi prendre une part de la responsabilité, par exemple. Donc, c'est ça, pour moi, il y a le retour des valeurs, j'en ai parlé ce matin, une écoute plus profonde, intuitive, je peux sentir ce qui se passe dans mon corps. Si j'ai une décision à prendre, au lieu d'être juste dans « je le fais, est-ce que je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas », comme ça être pris là-dedans, en descendant un peu, « ah, puis je peux trouver en fait, non, ça me ressemble pas ce truc, ou c'est pas, ça semble pas juste ». Il y a quelque chose d'autre auquel je me donne accès. Puis donc pour moi, puis là la personne disait, ah, est-ce que tu fais ça pendant la méditation? Et je disais, pour moi, il y a deux pratiques là. Il y a la pratique de la méditation, moi j'essaie de la garder très, très clean. La méditation pour moi, c'est pas de la réflexion, donc c'est pas des phrases, sujet, verbe, complément, c'est pas discursif. C'est plus de l'écoute, du ressenti. Une autre pratique que je pourrais faire, par exemple, ça serait parfait à la fin de la méditation, quand là, il y a une certaine présence établie, je pourrais me dire, bon, voyons ce que je veux, je sais pas, pour le week-end, imaginons, ou qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est... Il faut que je m'arrête là, pour penser à ce truc-là. Ben, maintenant que je suis incarné, qui a une dose de calme, d'honnêteté, de stabilité, ça va être parfait pour réfléchir à ceci. Et là, donc, il y a une réflexion. Pour moi, dans cette autre pratique-là, de la réflexion, une chose que j'aime bien faire, c'est de voir si je peux arrêter la réflexion à n'importe quel moment pour sentir le corps. Si ma pensée semble être emballée, ça va devenir très clair. Il faut que je pense à tout ça, il faut que je règle tout ça. Et là, est-ce qu'on peut rêver? Respirer un peu, devenir conscient de la luminosité, de la température. Ok, qu'est-ce qu'on disait, de quoi on parlait pour se poser. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais donc moi, quand je réfléchis, j'aime ça y aller bien accompagné. Hein? J'aime rentrer dans les réflexions bien accompagné, avec calme, avec équilibre, avec bienveillance. J'ai l'impression que ma pensée, mes conclusions, mes compréhensions vont être en plus de chances d'être justes, sages, inclure l'autre. Puis, si vous voulez faire la même chose, ça peut être intéressant pour vous de aussi, peut-être que vous faites déjà ça, mais au moment de pratiquer, de dire « Non, en ce moment, on pratique, on est ici. » Alors, on ne va pas se mettre à réfléchir à tel truc qui est très important. On va y revenir après. Maintenant, on est ici, puis on ressent. Puis peut-être que ça inclut de ressentir de la confusion. On n'essaiera pas de régler la confusion. On n'est pas d'en régler, on est d'en ressentir. Je donne un petit exemple que j'utilise parfois parce que je le trouve assez bien dans le. Pour moi, je voyais le développement de la pratique. Alors, c'était une des premières fois que je donnais un enseignement. J'étais à Spirit Rock, un centre de méditation en Californie. Puis ça donnait qu'il y avait tous mes profs, ben, plusieurs de mes profs seniors qui étaient là. On enseignait à plusieurs personnes, alors on enseignait en groupe. Puis il y avait quelques-uns de mes. Donc j'étais assez nerveux. Et donc j'enseignais, et là je prenais mon regard comme ça, puis j'expliquais un truc, j'étais dans une liste bouddhiste, là, comme il y en a plusieurs. Je descendais ma liste, ça allait vraiment très très bien, mes trucs. Et là, point 3, j'ai regardé les gens comme ça, puis dans la foule, il y avait une centaine de personnes, il y a un moment où j'ai croisé le regard d'une personne qui était juste assez neutre, le regard, tu sais, pas encourageant, compatissant, ouais. Mais probablement, peut-être juste dans l'écoute, dans la considération de ce qui était présenté, mais qui me semblait assez neutre. Puis là, j'ai pu tout projeter ma psyché sur cette personne-là. Puis là, j'ai eu l'impression que cette personne-là me détestait, elle me trouvait idiot. Puis j'ai eu l'impression aussi qu'elle était très intelligente. Moi, je suis pas allé à l'université. Et puis tout à coup, c'était clair que cette personne-là avait un doctorat. Et en tout cas, il y avait tout ça qui était très, très vivant, très palpable. Puis aussi une genre de paralysie, une peur paralysante. Alors, même s'il y avait des notes, là, tout ça, il est tout jammé, comme on dirait chez nous. C'est resté pris comme ça. Puis là, il n'y avait plus d'intelligence, plus de capacité de bouger. Puis il restait peu de choses. Et donc là, il y avait un blanc. Et je ne me rappelais plus de quoi je parlais. Je ne sais même pas si pendant quelques secondes, je n'ai même plus su où j'étais, je pense. Et ça a eu une certaine durée. Parce que ce qui indiquait ça, c'est qu'il y a un moment où il y a un des enseignants qui... il me restait la vision périphérique. Là, j'ai vu un corps se pencher comme ça. Là, je me suis dit, ah oui, là, à quelque part là-dedans, à ce moment-là, tout à coup, je suis devenu intéressé par le phénomène. C'est comme la pratique, les moments de curiosité, d'attention que j'avais développés, n'étaient pas des moments isolés. Là, c'était de la neuroplasticité, en fait. Hein. Il y avait un petit sentier qui avait été creusé dans le cerveau il y avait une possibilité de revenir à ça. Donc, peut-être que ça a une nature de vague, là, cette peur paralysante-là. Puis il y a un moment où est-ce que c'est comme ça. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, peur paralysante. Qu'est-ce que c'est intéressant. Et là, j'ai vraiment senti, ah oui, je ne peux pas bouger. Il y a impossibilité de bouger. Tout le corps est acide, on pourrait dire, là, comme une sorte de brûlant, mais plus chimique que par le feu. Là. En tout cas, il y avait plein de symptômes, puis il y avait cette reconnaissance-là que le cerveau, les capacités du cerveau, là, comme l'intelligence, était réduite. Là, je ne sais pas si il n'y avait plus de... Ça, il y avait très peu de moyens, là, comme peut-être... Comme la mémoire, je vais essayer de me souvenir de quelque chose, je ne pense pas que j'aurais été capable. Tu sais. Mais d'ailleurs, je ne me souvenais pas qu'il y avait des feuilles, des trucs. Puis à un moment, je me suis souvenu qu'il y avait des notes. Puis là, je me suis rendu compte que, en fait, je pouvais bouger. Et là, quand j'ai vu les. Déjà, ce n'est pas aidant, là, je peux vous montrer le style. Mais au moment où j'ai regardé, c'était. Ça n'avait aucun sens, il n'y avait pas la capacité de déchiffrer. C'est comme si ça avait été écrit dans une langue inconnue. Et là, je voyais ça, j'étais conscient de ça, je me disais, waouh, c'est incroyable parce que je sais écrire, c'est moi qui ai écrit, ce sont mes idées, tout ça, mais il y a une incapacité de décoder même une chose que je connais bien. Là, tu sais. Puis j'étais très intéressé par ça. Puis là, tout à coup, c'est devenu, ça s'est focalisé. Puis là, j'ai vu aussi, waouh, tout à coup, le sens apparaît, les perceptions changent. Au lieu d'être juste des traits, tout à coup, ça avait du sens. Puis là, j'ai retrouvé, la mémoire est revenue. Ah oui, j'étais au cinquième point. J'ai vu ça, les moyens revenir. Donc, la nature passagère de ça. Tout à coup, j'ai recommencé comme ça, puis j'ai pu reprendre. Et à la fin, là où normalement il y aurait pu avoir beaucoup de honte, de haine de soi, tout ça, ces trucs-là n'ont pas embarqué en fait. Puis à la fin, je me souviens que je suis sorti, je me disais, waouh, c'était extraordinaire, quelle chance j'ai eu de voir toute cette série d'événements, de phénomènes-là. Puis donc, je trouvais aussi qu'il y avait une protection de ça au lieu d'en faire de personnaliser, d'être. Il y avait ça, c'était comme ça que la compréhension était celle-là. Puis en fait, elle était aidante, elle n'était pas nuisible. Puis juste pour finir l'histoire, qui était assez drôle, c'est que quelques jours après, cette personne-là est venue pour une entrevue individuelle. Et en entrant, la personne a dit: ton enseignement l'autre soir, j'étais bouche bée. Ça m'a tellement aidé. Si je t'invite dans ma ville et que je te paye le billet d'avion, est-ce que tu viendras enseigner dans ma ville? Puis je dis: ah oui, oui, oui. Je ne sais pas, c'est incroyable parce que mes perceptions à ce moment-là étaient altérées. Puis j'ai vu quelque chose qui apparemment n'était pas là. Et cette personne-là n'a pas de doctorat. Là-dedans aussi, c'est ça, un des aspects que je veux ramener, j'en parlais hier, c'est que ce que je vois, c'est que de plus en plus les événements, les phénomènes sont vus comme des phénomènes comme tels. Alors, c'est pas des descriptions de moi. Parfois, ça en est. Quand ça en est, souvent, c'est un peu souffrant. Une appropriation, là, ça me décrit. Alors, ça ajoute une couche de souffrance. Alors que quand il y a le phénomène de la peur paralysante, en soi, c'est un phénomène qui peut être intéressant. Le phénomène de la perte de mémoire. Impossible de se souvenir de ce qui était en train de se passer il y a quelques secondes. Ah, c'est intéressant comme phénomène. Puis comme quoi, il peut y avoir une grande libération dans... Puis je sais que quand j'emploie ce langage-là, puis ça vient des enseignements, là, phénomène, ça peut paraître froid, hein? Ça peut paraître détaché, tout ça, alors que le titre du week-end, là, le thème, c'est l'intimité. Puis pour moi, c'est quand je pense à intimité, c'est qu'il n'y a pas le voile de l'appropriation. Il y a une réelle... j'ai l'impression pour moi qu'il y a plus d'intimité quand il y a moins de conceptualisation autour du truc. Comme c'est à moi, c'est moi. Je ne sais pas si j'arrive bien à refiler ça, mais je vais essayer dans les prochaines minutes de le faire. Par exemple, c'est un exemple que j'utilise souvent, si en étant assis ici, traverse une pensée cruelle dans l'esprit, si une appropriation, si ça, tout à coup ça me définit comme personne cruelle, ça va amener beaucoup de prolifération, un débat intérieur: est-ce que je suis cruel, est-ce que je ne suis pas cruel, faut pas que personne se rende compte que je suis cruel, ça devient très très complexe. Alors qu'une autre approche qui se développe avec la pratique, c'est que tout à coup, il y a une pensée cruelle. Et le discernement, l'intelligence qui vient, c'est la reconnaissance qu'en fait, c'est pas aidant. Ça pourrait causer beaucoup de troubles d'entretenir ça. Alors, il y a quelque chose qui reconnaît: ah, ça, c'est pas aidant. C'est une sorte de plaisir là-dedans. Tu sais, une pensée... je vous donne un exemple juste pour que c'est pour pas que vous pensiez là, que je suis incroyablement cruel. Mais la pensée, ça pourrait être juste... je sais pas, il y a quelqu'un qui a pris votre espace pour vos souliers, puis vous vous dites... j'espère que... je sais pas, tu vas payer pour ça. Que tes souliers aussi seront déplacés plus tard. Toi aussi, tu trouveras pas tes souliers. Puis là, ben, il y a... puis donc, juste la reconnaissance de: ah, c'est une pensée, c'est pas la mienne, c'est pas moi, c'est une pensée. Elle arrive définitivement ici, elle arrive pas là, elle est localisée, mais ce qui est plus important, c'est sa nature aidante ou nuisible, plus que le fait qu'elle appartient à quelqu'un ou pas à qui. Plus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment être avec ça? Il y a un moment où... dans un des nombreux newsletters qu'on reçoit, peut-être bulletin d'information de différents centres, etc., il y avait une courte interview avec Joseph Goldstein, c'est un de mes enseignants à moi. Et Joseph disait, c'était assez surprenant, je pense que c'est ce qui m'a fait lire, ben, peut-être j'aurais lu quand même, mais ça m'a vraiment intrigué. Joseph disait, j'ai développé une méthode, c'était en anglais, là, mais c'était, il disait, moi j'ai développé une méthode de pratique turbo charge, la méthode turbo de méditation. Puis je me suis dit, ah, ben, c'est je ne connais pas le style de Joseph là-dedans, qu'est-ce que c'est la méthode turbo? Ça avait l'air d'une publicité ou d'un truc. Ouais, acheter ce truc. Puis, en fait, dans l'entrevue, il disait j'étais dans une longue retraite, puis j'ai la chance de faire des longues retraites, puis de pratiquer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pensais à mes amis, certains de mes amis qui n'ont pas ce luxe-là, qui n'ont pas ce privilège-là, cette capacité-là, pour une raison ou pour une autre, que ce soit qu'ils ont des enfants ou un travail ou des besoins financiers ou quelque chose qui les empêche de partir pendant une longue retraite. Puis je me disais, mais je voudrais qu'ils aient accès à une compréhension profonde. Puis je me demandais comment gérer le problème du temps à travers ça. Puis donc j'ai développé cette... je sais pas si ça tiendra encore la route quelques années plus tard, mais la forme était intéressante. Puis je l'ai pris en note. Puis vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Parce qu'il disait, donc ça prend juste quelques minutes par jour. Est-ce que vous êtes intéressé par la méthode d'éveil turbo, intense, rapide? Alors, c'est pas insight meditation, c'est instant. Alors, il disait, prenez 3 minutes par jour. C'est une série de 3 minutes. Quelques fois 3 minutes. Alors, 3 minutes pour... puis la pratique dans ces 3 minutes-là, ça va être juste, vous allez vous arrêter, vous allez vous demander, qui entend? Qui entend? Il y a de l'ouïe. Puis, c'est ça. Brièvement, c'était ça la technique. Qui entend? Alors, c'est l'angle que prend l'attention, c'est l'investigation. Ensuite, il disait, il y a un autre 3 minutes, ça peut être au même moment ou à un autre moment, là, juste après ou plus tard. Pendant ce second 3 minutes-là, intéressez-vous seulement à la naissance des pensées discursives, paroles dites ou entendues en soi. Alors, essayez juste d'être présent, d'être pleinement conscient au moment où naît une pensée. Alors ça, c'est le deuxième 3 minutes. Puis rapidement, je vais le faire de cette façon-là. Le troisième 3 minutes, ce serait en marchant, devenez conscient de la fin des sensations. Par exemple, il y a un pas, une certaine dureté au sol, une expérience de poids ou quelque chose comme ça. Notez la disparition de l'expérience de poids. Je ne sais pas, il y a une sensation de la main devant. Notez la disparition de cette sensation-là, de la main qui était devant ou derrière, quelque chose comme ça. Donc, la disparition des sensations pour 3 minutes. Puis ensuite, on pourrait dire, prenez un autre 3 minutes à chaque jour pour réfléchir de la façon qui vous plaît à la mort, au fait que les êtres humains ont une finalité. Donc, ça peut être la sienne propre, ou de réfléchir, voir telle personne que je connaissais était existante, et maintenant, dans mon expérience, est inexistante. De réfléchir à ça. Comme par exemple, on pourrait dire maintenant, tu sais, c'est donc ce manque particulier de penser que nous, tous ici, on a tous en commun qu'un jour on n'existera plus, qu'il y a une finalité, qu'on est éphémère en fait. Hein. On est là, on semble bien existant, puis il y a un moment où cette expérience-là ne sera plus ça. Puis il disait donc 3 minutes à s'arrêter là-dessus. Pourquoi je ramène ça aujourd'hui? Parce que quand je regarde ça, pour moi, je trouve que ça parle beaucoup de... C'est comme si c'était dit... C'est à propos de l'appropriation des choses, tu sais, l'identification, la définition de soi, pour moi. Qui entend? Qui entend, c'est pour relâcher un peu de l'idée préconçue que c'est moi. Parce que plus je vais être attentif, plus je vais voir que non seulement les phénomènes des sons n'appartiennent pas, ça, on dirait que j'ai la sagesse de savoir ça, que les sons ne sont pas mes sons. Ah, ton son est parti. C'était pas mon son, c'était un son. Qui entend, ça commence à montrer que la conscience, les moments de conscience, conscience des sons, passent comme les sons eux-mêmes. Alors ce moment-là de conscience, ce moment-là d'être conscient qu'il y a un son, est un événement éphémère qui disparaît. Donc, si c'était moi qui entendais, ce moi-là est disparu. Là. Alors on est un peu dans la déconstruction d'une idée là, solide d'un soi. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, essayer d'être conscient du début des pensées. Qu'est-ce qui risque d'arriver si on fait ça? On va voir la nature conditionnée des pensées. On va voir que ce n'est pas tellement moi qui pense. D'une façon superficielle, je pense que c'est moi qui pense, je pense à ça, j'arrête pas de penser à ça. Puis si on devient intéressé par le début des pensées, on risque de découvrir que la pensée débarque malgré moi. Que moi, j'aimerais bien pas penser, peut-être, mais que le commentaire débarque. Si on peut faire l'exercice maintenant, puis ce qui arriverait probablement, c'est que pendant une seconde, il n'y aurait aucune pensée, puis tout à coup, il y aurait une pensée qui débarquerait. Oui, mais je ne pense pas, il n'y a aucune pensée, ou on découvrirait quelque chose autour de ça. Puis moi, j'ai l'impression que c'est sa façon subtile de commencer à déconstruire la notion de soi. Je entends, je pense. En fait, est-ce que c'est absolument vrai? Il y a des pensées, elles sont connues. Il y a des sons, ils sont connus. C'est turbo, mais j'ai l'impression que ça prend quand même un peu de temps. Notez la fin des sensations en marchant. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben c'est noter la fugacité, l'impermanence, ou la nature impermanente, ou je veux dire éphémère des choses. Mais c'est aussi le fait que c'est un changement du rapport au corps. Quand je pense que c'est mon corps, c'était mon corps, ça va être mon corps, ça a toujours été mon corps, tout à coup, je me rends compte que c'est une rivière de sensations apparaissant, disparaissant. Ce que j'avais pris au début pour être mon corps, en fait, c'était un concept. La réalité, quand je m'approche avec intimité de la réalité, c'est que ce corps-là, c'est une rivière de sensations qui disparaît constamment. Sensation de poids, sensation de mouvement, sensation de chaleur, sensation de... Ça existe, puis ça disparaît, ça existe, puis ça disparaît. Moi, j'ai créé un concept. Un concept, c'est regrouper plusieurs phénomènes sous une même rubrique, là, dans un même truc. Puis dire, ça, c'est moi. Moi, c'est une série d'affaires qui sont arrivées, une série de phénomènes qui sont disparus. Puis moi, c'est des phénomènes qui vont arriver plus tard, mais qui sont inexistants, t'sais. Parce que quand je suis dans cette fabrication-là, j'ai peur. Je me sens séparé, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Beaucoup de souffrance. Et au cœur des enseignements bouddhiques, c'est le relâcher la souffrance ou réduire la souffrance ou mettre une fin à la souffrance. Ça passe beaucoup par l'identification, l'appropriation. Réfléchissez quelques minutes par jour à votre existence impermanente. Il y a quelque chose qui se produit, puis qui disparaît. Ça le met dans un contexte là où est-ce que il n'y a plus... ça shake un peu, ça secoue un peu l'idée d'un soi intrinsèque, éternel, moi, qui existe en dehors de l'univers. Je pense que c'est de ce dont il s'agit dans cette méthode-là. Je prends encore quelques minutes pour parler de ça. J'espère que pour moi, c'est conceptuel, on passe par des concepts, mais ce dont je parle, c'est du vécu. Là. C'est un changement inside Vipassana, c'est un changement de perception sur la réalité. Je pensais que les choses étaient moi, à moi, ou qu'elles pouvaient l'être, puis qu'il fallait que je me les approprie. Puis plus je pratique, plus je me rends compte que non, c'était pas à moi. Par exemple, hier matin, pour être très... Non, ce matin, je me réveille, puis je me mets à réfléchir à la journée, puis les connexions se font. Et là, je me dis, ah, ça, c'est moi. La pensée, c'est ça, c'est moi. Hier, c'était pas moi, j'étais dans un genre de vapeur, tout ça. Puis en pensant, ça c'est moi, Pascal est revenu. Ça m'a permis de découvrir, ah, donc j'ai une identification à une certaine expérience. Je me définis par une certaine fluidité de connexion, etc. Il y a une certaine sorte d'intelligence, là. Vous la mettrez où vous voulez dans le truc, mais il y a une certaine intelligence que je reconnais, puis je me suis approprié. Et hier, c'était pas moi. Puis là, je me suis dit, ah, attention, tu t'appropries quelque chose qui est inconditionnel, impermanent, enlève quelques heures de sommeil, puis ce qui était tien l'est plus. Fragile. Est-ce que c'est vraiment tien ou est-ce que c'est plus quelque chose qui appartient à la nature, qui crée les conditions? Quand j'étais jeune, j'en parlais un peu hier, je savais pas, mais j'étais identifié à la santé ou la santé était à moi, ou j'étais la santé ou la santé était à moi. Très indéfini, j'étais pas au courant, c'était une croyance cachée, inconsciente. Mais au moment où on m'a dit, t'as plus la santé, j'ai eu une crise identitaire. Hein? C'était une grosse crise identitaire parce que moi, je croyais que j'étais la santé. Et là, tout à coup, on me disait, t'es la maladie, t'es la pire maladie, t'es la maladie honteuse, t'es la maladie laide, t'es la maladie qui est un, comment on dit, châtiment, c'est ça que t'es. Il y a plusieurs façons de le comprendre, mais il y avait quand même cette idée-là que tout à coup, puis là j'étais confus, mais non, mais moi je suis la santé, je suis un sportif, je mange bien, moi aussi, comme l'autre personne du frigo, je mange bio. Et là tout à coup on disait non, la santé c'était pas toi, puis c'était pas à toi, c'était conditionnel. Les conditions étaient telles qu'il y avait la santé. Puis c'était précieux. Puis là, ben, les conditions sont telles qu'elle n'est plus là. Puis de la même façon, ce matin, j'ai retrouvé mon intelligence. C'est pas à moi. Parce que si les conditions changent, elle va disparaître. Puis c'est à peu près sûr qu'il y a un moment où la mémoire. Enfin, c'est pas à peu près sûr, c'est absolument certain qu'à un moment, il n'y aura plus de mémoire. Ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ma compréhension des choses, c'est que quand on est nourrisson, on est dans un stade pré-égotique. On ne sait pas, il y a une présence qui est pleine, 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 pleine. On est présent, présent, présent. Il n'y a pas énormément de sagesse, mais il y a une présence qui est pleine, pleine, pleine. Puis on sait pas qu'on n'est pas la main qui caresse. On ne sait pas que, mais là, le parent dit, ça c'est la main de maman, ça c'est ta main, où il est ton nez, où il est le nez de maman ou de papa. Puis là, on dit comment on entre dans une phase égotique. Il y a un ego qui se forme, on voudrait qu'il soit bien formé, s'il est bien parenté, etc. Et je comprends qu'il va être bien formé, puis il y a plein de façons aussi d'aider ça plus tard dans la vie adulte. Puis là, il y a un ego, on sait que ça c'est mon corps, puis c'est moi qui décide qui touche à mon corps, puis ça c'est mon jouet, puis ça c'est pas mon jouet, je peux pas le prendre dans le magasin et partir avec, c'est pas à toi, c'est mon amour, toi c'est l'avion, le camion qui est là, il vaut trop cher, c'est pas à toi. Puis donc on définit ça, moi par moi, puis là tout à coup on s'en va dans un centre bouddhiste, puis là sans qu'on se soit vraiment engagé, on entre dans la phase transégotique. Et là, on dit, c'est pas vraiment à toi. C'était utile qu'on t'ait dit que c'était à toi, mais c'est pas absolument vrai. La santé, c'est pas exactement à toi. C'est pas vraiment à toi. Ça appartient à la nature. Et c'est bien de s'en occuper. Il faut en prendre grand soin. C'est pour ça qu'on apprend la pleine conscience, être pleinement conscient de ce qui est là, pour vraiment bien s'en occuper. Mais ça t'appartient pas. C'est pas ton énervement, c'est l'énervement. Ça, c'est du domaine public. C'est dans la nature c'est dans la nature humaine. Il y a 2600 ans, là, on parlait à peu près les mêmes affaires. Là. On ne parlait pas de Natel, mais on parlait de tout le reste. On parlait de l'anxiété, on parlait de l'appropriation, de moi à moi, mien. Puis il y a quelqu'un qui demande au Bouddha. Mais vous, là, qui êtes si sage, est-ce que vous dites « je » Puis le Bouddha dit « ben oui, je dis « je ». mais je connais les limites du langage. J'ai de la sagesse dans l'emploi de ça. Je suis pas tombé dans la trappe. Je suis pas dupe. Quand je dis je sais que les choses sont éphémères, conditionnelles, qu'elles appartiennent à la nature, puis qu'il n'y a rien qui appartient à un certain je, là. Alors ça, c'est au cœur là, de l'essence, puis ça fait craquer le cerveau des fois. Mais ça reste... je pense que c'est abordable. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, on peut entendre ça, puis ça peut résonner. Ah, je reconnais quelque chose, c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas ce que mes parents m'ont dit, etc. Mais je comprends, il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, ça m'intrigue, je vais aller voir plus loin. La façon d'aller voir plus loin, c'est de faire exactement ça ici. C'est de s'asseoir, puis de se rendre compte que la main, par exemple, ma main, c'est une série de picotements, c'est un champ de chaleur, puis que ça serait très dur de s'approprier absolument un moment de picotement. Là, je le mets en concept, mais c'est quelque chose qu'on découvre de façon intuitive. Dans l'expérience, en prêtant attention, sans y réfléchir, en prêtant attention, on se rend compte que il y a des mouvements, je ne suis pas la colère, mais elle vient, je ne suis pas la générosité, mais parfois, elle est là. Si par exemple, je m'approprie justement la générosité, c'est problématique. En tout cas, voyez pour vous-même, mais c'est que tout à coup, je suis généreux, justement, généreux. Généreux, généreux, généreux. Incroyable. Il y a un isolement là, tout à coup. Il y a un je qui est là. Est-ce que les autres savent que je suis généreux? Comment est-ce qu'ils pourraient s'en rendre compte sans que j'aille l'annoncer clairement? Ouais, je lui ai donné beaucoup de temps. Je suis comme ça. Alors que l'idée, c'est de reconnaître pas la générosité. Par exemple, c'est aidant. La bienveillance, c'est liant. Ça aide à digérer les choses, ça aide à faire passer les choses, ça aide à faire passer la compréhension, etc. C'est un phénomène, c'est un facteur qu'il y a dans les cœurs, les esprits qui est aidant. Il appartient à personne. Je ne sais pas que je suis bienveillant. Il y a parfois la bienveillance, puis parfois, si je suis attentif, je vais voir qu'elle n'est plus là. Ou l'inverse. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important, parce qu'aussi toute la notion de culpabilité, par exemple, tombe. Il y a eu un geste, il était maladroit, il peut y avoir une reconnaissance de ça, même une chaleur, un désagrément. Wow, ces paroles-là ont été dites par moi, mais ça ne me définit pas. Je peux reconnaître avec discernement que c'était blessant, dangereux, faux, abusif, mais je suis pas obligé de me définir par ça. Puis pour moi, ça, c'est une forme de libération. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Je suis pas dans l'extrême de l'irresponsabilité. On dit, on fait ce qu'on veut, il n'y a rien qui nous appartient. Je suis pas dans l'irresponsabilité, je suis pas dans la culpabilité. Je suis juste au milieu, sur la fine ligne de la voie médiane. La voie du milieu, où est-ce qu'il y a une façon de prendre soin de ce qui naît dans le cœur, dans l'esprit, dans les situations, dans le système auquel j'appartiens, là, plus large, global, la nation, le pays, l'environnement, puis de se rendre compte de ça, il y a quelque chose dans ce système-là, ou celui-ci-là, ou celui-là, qui crée de la souffrance. Comment s'en occuper, quelle énergie est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sans que ça soit personnalisé. Là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas facile d'aborder ça, mais je continue à penser que c'est extrêmement important de s'arrêter à ça. Puis c'est une façon de donner des instructions aussi pour la méditation, de dire, vois si c'est vrai que c'est vraiment toi ou à toi ou pas un phénomène qui se produit en fait. Dans l'univers là, localisé. Mais... Oui.
Moi, je me pose toujours la question du choix.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a un libre arbitre ou est-ce que... Ben, c'est encore la réponse. Je ne vais pas régler tout trop facilement. Ouais, il y a une réponse. Mais je pense que ce que je comprends des enseignements, c'est que c'est encore la voie du milieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le... C'est quoi donc l'opposé du libre arbitre? C'est le... toujours dans les débats philosophiques, le prédéterminé. Hein? Alors, on est... le prédéterminisme, ça serait un extrémisme. Ce serait une façon extrême de voir les choses, fausse, une mauvaise compréhension des choses. Le libre arbitre aussi. Puis en étant assis ici juste quelques heures, on voit qu'on n'est pas dans le libre arbitre, là. Je vais être calme, mon corps va être léger, centré. 30 minutes de méditation, je vais être seulement sur la respiration pendant 30 minutes, aucune pensée ne viendra. Est-ce que c'est une expérience de libre arbitre? Non. Parce que je m'assois, ça fait mal, je ne suis pas centré, je suis pas. Les pensées débarquent, je voudrais être calme, mais c'est pas ça du tout. Il y a une obsession avec un truc à propos de je. Et donc, on n'est pas exactement dans le libre arbitre, puis tout n'est pas déterminé non plus. L'approche du bouddhisme, c'est que les choses sont conditionnées, conditionnelles. Alors, une chose en entraîne une autre. Quand il y a les conditions sont présentes, tel événement va apparaître. Alors, je gère pas, ici, là, il y a pas je gère pas tout, mais il y a une contribution possible. Nous, ce qu'on fait, d'après ce que moi je comprends, c'est qu'on utilise la causalité, le conditionnement, pour tendre vers moins de souffrance pour soi puis pour les autres. Alors, le prof, la job de l'enseignant, entre autres, c'est de conditionner l'élève. Moi, je suis aussi un pratiquant d'élève, puis je passe de l'un à l'autre, mais quand je vais voir mon prof me dit, pourrais peut-être mettre ton attention là-dessus. Alors, il me conditionne à prêter mon attention à quelque chose plutôt qu'à quelque chose d'autre, dans le but qu'il y ait de la sagesse qui se développe. Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est pas le libre arbitre, mais c'est pas prédéterminé non plus. C'est quelque part entre les deux, là, sur une fine ligne. Puis c'est la conditionnalité. Alors, ici, on s'est conditionné aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait. On se conditionne à être plus attentif. On se conditionne les uns les autres, là, en communauté, on se rassemble, puis on se conditionne à être plus sage, un peu plus bienveillant, parce qu'on parle beaucoup de sondage, ah, la valeur est là, la valeur est là, la valeur est là. Alors on change notre façon habituelle d'être, que vous reconnaissez ça un peu. Moi j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, là, on va être un petit peu plus bienveillants là, cette semaine, à cause de ça. J'espère. Et donc, il y a un conditionnement, là. Puis peut-être que ça mènera vers quelque chose qu'on appelle l'inconditionné, mais moi, j'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Je vais rester dans le conditionné, qui me semble très intéressant comme domaine d'exploration. Alors, il y a une jeune fille dans une retraite qui me demandait une fois, ben, c'était moi qui étais là, aux questions-réponses, puis elle disait. Moi, parfois, avec mes amis, je suis très aimante, je suis joueuse, etc., disponible, etc. Puis parfois, en fait, je suis calculatrice, je suis de mauvaise foi, etc. Laquelle est-ce que je suis? C'est génial parce que dans le bouddhisme, la question ne se pose pas. Tu n'as pas à te poser cette question-là, il y a juste une reconnaissance de « Ah, quand il y a la mauvaise foi, en général, ça tourne mal. » Dans mon groupe d'amis. Alors que quand il y a la bienveillance, en général, ça aide les choses à mieux se passer. Va voir si c'est vrai ou pas. T'sais. Étant intéressé par ça, les choix vont s'organiser. Alors plus il y a de la sagesse, meilleurs vont être les choix. Donc c'est pas prédéterminé. Bon, alors c'est ça la réponse aujourd'hui, là. Si elle est insatisfaisante, c'est une très bonne chose. Ça va stimuler l'investigation. Il va falloir voir pour soi-même qu'est-ce qu'il y a là-dedans. OK. Alors, prenons juste un moment là, pour laisser le silence faire son œuvre. Qu'est-ce qui est présent en soi ou dans l'expérience? Peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a, je sais pas, que c'est spacieux en soi, peut-être que c'est qu'il y a de la confusion, peut-être qu'il y a de la bienveillance. Est-ce que c'est vraiment absolument moi? Ou est-ce que c'est un phénomène bien réel et passager qui est peut-être agréable ou désagréable? Est-ce que ce phénomène-là peut être connu simplement? Si on veut, on peut jouer avec le langage dans la pratique de la méditation. Alors, c'est pas tellement je respire, mais peut-être il y a la respiration, elle est connue. Ou il y a le calme, il est connu. Ou il y a l'impatience, elle est connue. Et là, il va y avoir la marche. Elle sera connue. Puis il y aura un retour ici. Peut-être 16h10 pour une dernière méditation. Alors, 16h10, on pourrait être tous assis ici pour une dernière méditation de groupe. Et on va finir quelques minutes avant 5h, peut-être à 16h45, est-ce que ça ferait votre affaire? Ok. Merci beaucoup.